Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de Nous voilà bien, votre émission conso du samedi matin. Je vous espère en forme en ce début de week-end, J-5 avant le fameux réveillon de Noël, même s'il sera un peu particulier cette année. On va quand même vous aider à passer le meilleur des moments possibles. Voici le sommaire du jour. C'est le sapin, les cadeaux, mais aussi la déco. Comment décorer sa maison à moindre coût? Tous les conseils de Pierre Nesman, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. Avec l'année qu'on a passée, on a bien mérité de se détendre avec de bons cocktails pour les fêtes. Mais comment les réussir? On check avec Johan Demerseman, qui est barman et formateur en mixologie. Qui dit repas de Noël dit forcément dessert. Alors comment préparer sa fameuse bûche de Noël maison? Découvrez les astuces de Ligori Lecomte, chef du site cuisineaz.com et auteur culinaire.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Jamais trop si cette chanson que l'on entend, que l'on réentend, que l'on réécoute chaque année me met de bonne humeur ou me donne envie de taper. All I want for Christmas is you, c'est Maria Carré sur l'antenne d'RTL. Pierre Nesman, bonjour.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
On est d'accord quand même que cette chanson, on l'entend tous les ans.
Et oui, c'est motivant.
Oui, c'est motivant. Et puis parfois, à un moment donné, je me dis En tout cas, soyez le bienvenu. Vous êtes paysagiste, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, vous êtes rédacteur en chef de l'émission Mission Végétale qui est diffusée sur M6. Alors, c'est vrai qu'on achète souvent de la déco en plastique qui vient de l'autre bout du monde, mais la déco de Noël naturelle et maison, ça a plein d'avantages et c'est pas compliqué à faire.
Bah oui, effectivement. D'abord, c'est écolo, c'est très bon pour la planète. Et puis, ça donne l'occasion en famille d'aller collecter des matériaux dans la nature. Et puis ensuite, de se réunir pour fabriquer justement ces petites décorations de Noël.
Mais que l'on habite au vert ou en ville, on peut trouver de quoi faire du do-it-yourself en fait.
C'est vrai qu'il va falloir savoir qu'au début, il y a un certain nombre de choses qu'on ne va pas trouver dans la nature. Des fils de fer, par exemple, des rubans, de la mousse de fleurisse, des bougies, de la colle, des bombes de couleurs. Ça, il va falloir effectivement les acheter. Mais après, lorsqu'on a un jardin, eh bien, il y a une multitude de choses que l'on peut glaner. C'est une véritable mine d'or. Des branches de sapin, bien entendu, des arbustes avec du feuillage persistant, comme le laurier cerise, le laurier sauce, des lianes de lierre, de glycines, des pommes de pin, des petits fruits de conifères, des baies décoratives. Enfin bref, dans le jardin, il y a énormément de choses. En revanche, c'est vrai, quand on habite en ville, c'est un petit peu plus compliqué.
Mais est-ce que ça demande quand même une habileté particulière? Je pense en ville, on a quand même, quoi qu'il arrive, des parcs, il y a des bois à proximité des villes, enfin, dont on doit pouvoir trouver de la verdure. Mais est-ce qu'il faut une habileté particulière pour ça?
Alors, pas forcément. C'est vrai que ceux qui sont très agiles de leurs mains vont pouvoir réaliser des décorations dignes de grands fleuristes. Mais sinon, tout le monde peut s'essayer. Et dans ce cas-là, on va faire des choses un peu plus modestes. Mais je crois qu'on a toujours une certaine satisfaction à retirer de quelque chose qu'on a fait soi-même sans forcément faire une œuvre d'art particulière. Pour revenir effectivement, Flavie, sur ce qu'on va trouver en ville, c'est vrai que, vous l'avez dit, dans des parcs, dans des jardins urbains collectifs, on peut aller chercher des éléments. J'attire l'attention, on va pouvoir ramasser ce qui est par terre. Des marrons, des feuilles mortes, des morceaux de branches, mais on va pas pouvoir cueillir avec son sécateur comme on le ferait dans un jardin de particulier, des branches, des feuilles, comme ça nous arrange, ça évidemment c'est interdit. Et puis il faudra peut-être aller glaner un peu plus loin, dans des prairies, dans des friches industrielles ou des friches autour des villes, trouver de l'églantier, c'est le rosier sauvage, des branches, des rameaux, des feuilles, des fruits de chardon, de choses comme ça qu'on va pouvoir effectivement utiliser pour ces petites décorations.
Comment on fait une couronne de bienvenue? Parce que ça c'est quand même le truc que tout le monde achète, alors qu'en réalité quand on achète une couronne de bienvenue et qu'on la regarde, on se dit que ça n'est pas compliqué à faire.
Ben effectivement, alors la couronne de bienvenue, c'est cet élément décoratif qu'on va accrocher sur la porte pour accueillir nos invités au moment des fêtes de fin d'année. C'est très simple à faire, on va faire avec des branches de sapin ou éventuellement des lianes ou des sarments de vigne ou de glycine, on va faire un cercle et sur ce cercle, eh bien, on va accrocher un certain nombre d'éléments. On peut fixer des pommes de pin, des rubans de couleur, des nœuds en raffia, des petits fagotins de cannelle, des fleurs séchées et puis pourquoi pas quand même quelques boules de Noël pour donner un petit côté festif. motif. Alors, on peut la faire soit de manière arrondie, comme une couronne, comme son nom l'indique, mais on peut tout simplement aussi prendre des branches de sapin et puis les accrocher et puis mettre sur ces branches de sapin tous les petits éléments que j'ai cités tout à l'heure.
D'accord. Et quand je veux faire un rond, enfin, quand je veux faire une couronne, une vraie couronne, il faut que j'ai un support ou est-ce que les végétaux sont assez souples pour que je puisse leur donner une forme?
Alors oui, chez les fleuristes, on va trouver des supports qui sont tout faits, soit en paille, soit en sapin. Mais on peut aussi le faire soi-même. Si on est un peu malin et qu'on observe un petit peu comment ça a été fait chez les fleuristes, on va se rendre compte que c'est très, très simple. Alors, pour démarrer de manière très, très simple et facile, facilement, on utilisera des sarments de glycine, hein, vous savez, des lianes que l'on va enrouler autour d'un cercle pour former un cercle, en fait. Okay. Les branches de sapin, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut les saucissonner, les ficeler avec du fil de fer. Pour faire cette couronne, il faut un tout petit peu plus d'expérience, mais c'est tout à fait réalisable à la maison.
Bon, le truc qui n'est pas compliqué, c'est le centre de table. Et on peut faire plein de choses différentes.
Alors, le centre de table, c'est un élément décoratif, effectivement, qu'on va mettre au milieu d'une table. En général, c'est des tables rondes. Donc, on utilise une soucoupe. On va mettre à l'intérieur un pique-fleur ou de la mousse de fleuriste. Et puis, on va piquer des branches de sapin, des branches d'arbustes à feuillage persistant, du laurier cerise, du laurier sauce. Et puis, ça va constituer notre structure de base, de feuillage. Et à partir de là, on va piquer à l'intérieur un certain nombre d'éléments qu'on peut aussi trouver dans la nature, des petits fagotins de bouleau, des baies de lierre, des branches de houx. On pourra agrémenter tout ça de quelques nœuds en raffia ou en tissu. Et puis, pourquoi pas, quelques bougies, évidemment, et puis quelques petits éléments décoratifs, comme par exemple des fleurs fraîches qu'on ira piquer directement dans la mousse qu'on a utilisée. C'est très simple à faire et ça peut faire beaucoup d'effets au milieu d'une table.
Mais on n'a qu'une envie ce week-end, c'est de s'y mettre et c'est de s'y coller. On va se retrouver dans un instant. On va parler aussi de la déco pour le sapin parce qu'on peut faire des choses très simples aussi soi-même. Les emballages cadeaux, on peut faire des trucs un peu plus écolo aussi parce qu'on sait qu'un emballage cadeau, ça se déchire et ça se met direct à la poubelle, alors qu'en fait, en réalité, on peut faire des choses plus personnalisées. Bref, ce sera dans un instant avec vous. Et puis après, on parlera cocktail. Je vous recevrai pour un cocktail, mon cher, avec Johan Demerseman. Et puis on finira évidemment avec cette bonne bûche de Noël grâce à Ligori Lecomte. A tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Et on est à J-5 de Noël, les amis. Merci d'être avec nous. Nous voilà bien. C'est avec vous jusqu'à 10h. Dans un instant, on va vous donner plein de trucs pour faire des cocktails de fête absolument délicieux et pour épater la galerie, même si on est d'accord qu'on sera en petit comité. On parlera de la bûche Noël parce que la bûche de Noël, on peut la faire soi-même avec Ligori Lecomte. Mais pour l'heure, place à la déco.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Et puis c'est tellement sympa de faire sa déco soi-même en écoutant donc de la musique. Et Michael Beublé, Pierre Nesman, vous êtes avec nous, vous êtes paysagiste et vous êtes rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. Vous nous donnez plein de conseils pour faire les choses par nous-mêmes et c'est vraiment plus sympa. Vous nous avez expliqué comment faire une couronne de bienvenue, comment faire un chemin de table, les décos pour le sapin.
Alors évidemment, on ne va pas échapper à la traditionnelle guirlande lumineuse. Ça, c'est quelque chose qui est incontournable et qu'on ne pourra pas fabriquer. En revanche, on va très très bien pouvoir remplacer les traditionnelles guirlandes par exemple des bandes de toile de jute, par des cheminements par exemple de raffia que l'on va déposer sur les branches du sapin. Vous avez dans la nature des branches, des lianes, de glycines qui ont des petites inflorescences argentées. Ça peut être assez sympa de venir poser tout ça sur les branches du sapin, un petit peu comme les guirlandes. Et puis en guise de boule, il faut des choses qui soient un peu rondes, arrondies. Alors pourquoi ne pas faire des mini bouquets ronds de fleurs sèches, rassembler des petits fagots de saule ou de cornouiller qui ont des écorces colorées. On pourrait même utiliser de l'anis étoilé ou les fruits de l'alkékange. Vous savez, c'est les petites lanternes japonaises. L'alkékange, il y a la variété que l'on consomme en dessert, qui est un fruit que l'on un fruit un peu
oui,
spécifique.
Je vois. Rappelez-nous.
Alors c'est l'alkékange. L'alkékange ou la lanterne japonaise. Voilà.
Okay.
Et puis on peut aussi imaginer trouver, récupérer des marrons, des noix, des fruits secs dans la nature. Le cyprès de Provence, par exemple, fait des gros fruits secs. On va les peindre en rouge. On va les peindre avec une bande un peu argentée ou dorée, puis tout ça on peut l'accrocher dans le sapin et finalement ça va faire office de petite boule similaire à effectivement la décoration traditionnelle. Donc il y a plein de possibilités comme ça en allant glaner dans la nature de récupérer des objets. Il faut surtout faire preuve d'imagination et de
créativité
en fait.
En fait, faut se lâcher quoi parce que c'est ça qui est agréable et on peut un peu beaucoup même lâchons-nous tant que c'est pour faire un sapin, franchement lâchons-nous. Les emballages cadeaux.
Les emballages cadeaux, on va quand même rester sur le fait de dissimuler le paquet, ça c'est quand même même la base, et là malheureusement le végétal ne pourra pas nous aider. En revanche, là où il pourra nous aider, c'est pour les étiquettes. Moi je vous propose de prendre une feuille un peu épaisse, verte, vert foncé, vernissé. Alors vous avez du houx, vous avez du camélia, du laurier sauce. On va garder à la base de cette feuille le pétiole, la tige. On va y accrocher peut-être un petit peu de cannelle, d'anis étoilé, pourquoi pas une petite pomme de pin. Ça va faire un tout petit bouquet. On rassemble tout ça avec du raffia. Et vous savez qu'on pourrait écrire le nom de la personne à qui est destiné le cadeau sur la feuille. Et on va utiliser pour ça ces stylos qui ont une encre dorée ou argentée. C'est un petit souvenir en plus du cadeau qu'on ne va pas jeter, qu'on va garder. Et qui finalement, c'est un petit côté fait maison qui va peut-être retenir l'attention autant que ce qu'il y a dans le paquet.
Voilà, et puis pour emballer, il n'y a pas que le papier cadeau que l'on jette directement. Il y a aussi des papiers journaux, il y a aussi des magazines qui parfois sont très jolis. Moi, je pense qu'effectivement, on peut aussi faire de l'emballage avec de la toile de jute qu'on conservera pour l'année suivante, ou même des jolis torchons. C'est une méthode japonaise avec des jolis torchons ou des jolis mouchoirs. Vous faites des nœuds, vous mettez du végétal et comme ça, ça vous évite en plus de consommer du papier cadeau. Eh bien, c'est génial, on peut faire ça ce week-end. Donc ça, c'est fabuleux quand même. Et en plus, ça permet de faire des économies. Merci beaucoup, Pierre Nesman, de nous avoir emmené comme ça au pays du Noël plus végétal. Merci. Je vous souhaite d'ailleurs un très joyeux Noël à vous, de belles fêtes. Et puis,
merci,
et puis à très bientôt sur l'antenne d'RTL. À bientôt, Pierre.
À bientôt. Au revoir.
Les Beach Boys, c'est la bande originale du film Cocktail avec Tom Cruise. Mais nous, notre Tom Cruise à nous, c'est Johan de Merseman. Bonjour Johan.
Bonjour Flavie.
Vous êtes même bien mieux que Tom Cruise. Vous êtes beaucoup plus beau que Tom Cruise. Vous êtes barman et formateur en mixologie depuis 10 ans. Chouette, c'est Noël, il faut quand même qu'on se le dise, c'est un Noël particulier en petit comité. On nous conseille de porter le masque, mais on peut peut-être juste baisser le masque pour prendre un délicieux cocktail, même en petit comité, à deux, en solo. En fait, c'est festif le cocktail.
Exactement Flavie, et c'est vrai que depuis plusieurs mois, j'accueille des particuliers à mon atelier en solo ou en duo pour apprendre à faire justement des cocktails et pour qu'ils puissent passer un moment privilégiés chez eux à reproduire un bon cocktail. Donc ça, franchement, c'est vraiment une nouvelle tendance aussi qu'on observe et on s'adapte.
Et c'est ce qui fait effectivement la différence. Et ça
Exactement.
Se boit forcément en apéritif, un cocktail? Ça se boit forcément avant le repas?
C'est vrai que les premiers cocktails étaient des cocktails plutôt corsés, entre guillemets, cocktails apéritifs qui stimulent l'appétit. Mais j'ai envie de dire à chaque moment son cocktail. Par exemple, le mojito, qu'on connaît bien depuis le milieu des années 2000, est un cocktail festif, contrairement au spritz, qui est apparu ces dernières années, qui est plutôt apéritif. Du coup, on a un cocktail pour chaque moment.
Vous parlez d'ouvrir l'appétit parce qu'en fait, il y a des alcools qui ouvrent l'appétit?
Oui, en fait, toute la catégorie des amers ouvre l'appétit. Et c'est vrai que, par exemple, le spritz, qui est à base d'un amer, donc ces apéritifs à base d'alcool, qui sont vraiment dans l'air du temps depuis quelques années, permettent d'avoir justement des cocktails plutôt légers, plutôt amer et qui stimule l'appétit.
Mais c'est super intéressant, comme j'imagine qu'il y a des cocktails que l'on prend après le repas, ces fameux digestifs qui permettent justement une meilleure digestion.
Justement, ça c'est très intéressant. J'ai récemment créé pour Rum Porter une série de cocktails de Noël sur deux thématiques, le côté gourmand et notamment le côté pétillant. Et effectivement, on a des cocktails, même s'ils ont disparu un petit peu, cette année, ils reviennent tout particulièrement par rapport aussi au contexte. On a envie un petit peu de chaleur, de gourmandise et on a des cocktails qui favorisent la digestion, soit à base de plantes, mais cette année, on a envie des cocktails plutôt gourmands. Du coup, on partirait plus sur la crème, le cacao, le café ou le chocolat. C'est délicieux.
Alors tout ça à consommer évidemment avec modération, on a de cesse de le répéter, même si ça nous aide justement à digérer ou même si ça nous ouvre l'appétit. Alors les cocktails attendus de fin décembre, c'est à base de chocolat et de crème?
Il y a deux catégories de cocktails qui sont attendus pour la fin d'année. Ouais. On a d'une part les cocktails gourmands, comme je vous les ai cités, et on a aussi les cocktails pétillants, vraiment. Et là, on a envie de bulles, tout simplement. C'est très intéressant sur cette année d'avoir vraiment des cocktails autour du crémant, ou du champagne. Et d'ailleurs, je vous ai concocté une recette spécialement pour vous à ce sujet.
On va se retrouver dans un instant avec votre recette de cocktail, la recette du mocktail, c'est-à-dire un cocktail sans alcool. Et puis, vous allez nous expliquer effectivement que ça n'est pas si compliqué que ça à faire et ça peut sublimer notre Noël. À tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
On est ensemble jusqu'à 10h pour une spéciale Noël. Mais oui, c'est dans 5 jours. Bon, maintenant, vous savez faire votre déco maison avec la nature qui vous l'offre. Voilà, c'est à votre portée. Vous pouvez passer votre après-midi et aller chercher de quoi décorer votre sapin, votre centre de table ou tout simplement votre maison. On va parler dans un instant de la bûche de Noël parce qu'on peut la faire soi-même. Et ça, c'est Ligori Lecomte qui nous donnera une recette. Mais pour l'heure, c'est l'heure du cocktail. Mister Cocktail à nous, c'est Johan Demerseman. Et en plus, on n'achète pas son cocktail tout fait, tout moche et tout pas bon. Hein, c'est vrai, Johan, on peut le faire soi-même.
Non, la magie du bar, c'est aussi ça, c'est de pouvoir voir le cocktail lorsqu'il est fait. Et bien souvent, c'est plus agréable de regarder et de reproduire le cocktail que de déguster, même si on les apprécie aussi. Donc ça fait vraiment partie du show de pouvoir refaire le cocktail.
Voilà, c'est ça. Et puis les cocktails dans les supermarchés, ce n'est pas des vrais cocktails. Il faut quand même bien le dire, quoi. Donc c'est pas bon et c'est vraiment mauvais. Pour la santé également, parce que c'est plein de sucre. Enfin bon, bref. On était parti sur le champagne. Certains créments peuvent rivaliser avec le champagne. Ça, c'est vraiment l'ingrédient phare des cocktails de fête.
Ah oui, là, sur cette fin d'année, le côté pétillant du crément ou du champagne va aussi apporter à ce contexte un petit peu de chaleur et de gaieté. Et c'est justement sur cette thématique-là que je suis parti, sur le cocktail à base de champagne. Une des particularités aussi, c'est qu'il ne nécessite pas énormément d'ustensiles ou d'équipements, contrairement aux cocktails qui vont être shakés.
Alors justement, j'allais vous demander s'il fallait être équipé avec des ustensiles spécifiques.
Effectivement, ça dépend du cocktail qu'on va réaliser. Dans le cadre d'un cocktail qui va être fait directement au verre, par exemple au champagne, là on n'a pas besoin d'équipement spécifique sauf le petit jigger, donc c'est ce doseur à alcool qui permet tout de même de mesurer avec précision les ingrédients qui composent la recette. On le retrouve assez facilement dans les magasins de cuisine. Et puis sinon, le kit cocktail shaker classique, il se trouve aujourd'hui très facilement également depuis que le cocktail s'est démocratisé. Donc un petit kit cocktail, c'est pas indispensable. Pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez déjà faire un cocktail sans shaker. Si vous voulez le cocktail frappé, dans ces cas-là, c'est avec le kit cocktail.
Et à propos de frapper, moi je pense aussi aux glaçons. On met des glaçons même l'hiver dans les cocktails?
C'est vrai qu'en hiver, c'est une période spécifique où généralement on déguste vin chaud, Irish coffee ou grog dans les saisons notamment, c'est bien connu. Pour des cocktails par exemple au champagne, c'est le seul cocktail qui ne nécessite pas de glaçons, puisqu'on va le réaliser directement au verre. Contrairement au cocktail frappé, par exemple un cocktail à base de crème ou de blanc d'œuf, là, il faudra obligatoirement des glaçons pour vraiment bien rafraîchir le cocktail. Ça, c'est vraiment important.
La déco, le visuel, ça a son importance dans un cocktail. Enfin, moi, je sais que j'y suis extrêmement sensible. Le verre, la façon dont on va pouvoir agencer peut-être un fruit. Il y a des trucs que vous pouvez nous donner là pour les cocktails de Noël?
Ça, c'est vraiment très, très important. Justement, je donnais une leçon sur les qualités de verrerie dans Bartenders Online pour pouvoir comprendre l'importance du verre. Et oui, l'œil, le visuel, c'est ce qu'on va directement apprécier dans un cocktail. Donc j'ai envie de dire, choisissez un bon verre. Pour le coup, si c'est un cocktail au champagne, choisissez entre la flûte et le verre à vin. Ça, c'est vraiment très, très important. Et ensuite, pour la garniture, tout simplement, rappelez le fruit de saison que vous allez utiliser pour avoir ce côté gourmandise. Mais il faut rester minimaliste dans l'approche. Un bon verre, un petit fruit de saison, et ça suffit amplement. Un fruit de la passion, par exemple, coupé en deux, c'est très, très agréable.
Alors, on y va? Recette de cocktail?
Alors, recette de cocktail. J'ai donc le cocktail gourmand, le coffee mulata, qui va être à base de rhum, de liqueur de café et de citron vert. Là, il va être frappé. Le cocktail, il est extrêmement accessible au plus grand nombre. Petite particularité, c'est qu'on va le garnir de fèves de tonka râpées. Et oui, ça va apporter un côté gourmand et donc de Noël. Ensuite, le Kaki Bellini. Alors là, c'est vraiment le cocktail plutôt festif. Vous prenez du kaki frais, donc c'est un fruit méditerranéen, que vous allez donc mixer au blender pour obtenir une purée de kaki. Ensuite, vous allez rajouter une petite crème de fruits de votre choix. Vous allongez de champagne et vous avez le Kaki Bellini. En fait, c'est assez simple à reproduire. Le Bellini, c'est un cocktail que j'ai largement travaillé à Londres et que les filles adorent. Pourquoi ? Parce qu'il y a la couleur. Vous pouvez choisir la purée, par exemple grenade, fruit de la passion ou kaki là, dans la saison. Une petite crème de fruits et le crémant ou le champagne. Et c'est vraiment le cocktail de fête de fin d'année.
Très bien.
C'est
très facile à faire. Donc votre cocktail, et c'est effectivement très simple. Un mocktail pour ceux qui ne consomment pas d'alcool.
Le Clarendon, c'est une recette qui est dans mon livre et que j'avais créée à Londres il y a une dizaine d'années au Clarendon, à Notting Hill, pour justement une dame qui m'avait demandé un cocktail sans alcool, mais qui lui donne la sensation d'alcool. Du coup, c'était un beau challenge et j'avais eu l'idée de mélanger du sirop d'orgeat infusé au piment d'oiseau, c'est assez simple à faire, du citron vert, fruit de la passion frais et du jus d'ananas. Donc c'est des ingrédients qui sont relativement accessibles et qui correspondent aussi à la saison. Là, il vous faut soit un blender, soit le shaker, et vous allez servir dans un verre allongé de la ginger beer. Vous savez, cette boisson gazeuse aromatisée au gingembre qui va apporter justement des notes un petit peu relevées. Et ça va parfaitement correspondre à la saison. Clarendon.
Et en plus de ça, effectivement, ça permet de ne pas consommer d'alcool, puisque là, on vient de parler d'alcool, mais on est bien d'accord que tout ça se consomme avec modération. Vos recettes, on va les retrouver sur les réseaux sociaux de Nous Voilà Bien, mais on les retrouve également dans votre livre, Mon cours de cocktail aux éditions Duno. Merci beaucoup, Johan Demerseman, d'avoir été là ce matin.
Merci infiniment,
et je rappelle qu'on peut se la péter parce que notre professeur de cocktail aujourd'hui, il a remporté plusieurs compétitions. Voilà, et vous êtes formateur en mixologie depuis 10 ans à Rennes. Merci beaucoup.
Merci.
Je vous souhaite un très joyeux Noël.
Et très joyeux Noël également.
Merci Johan. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL, car maintenant que nous avons pris un petit cocktail, place à la bûche de Noël avec Ligori Lecomte. A tout de suite.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, Nous Voilà Bien.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, Nous Voilà Bien.
Et vous croyez quand même pas qu'après avoir fait votre déco vous-même, qu'après avoir justement préparé vos cocktails vous-même, vous n'allez pas, en plus de ça, ne pas préparer votre bûche de Noël ?
Oh, de dessert, c'est une bûche ?
Non, c'est Cloug.
Un bon petit Cloug. Bonjour, Ligori Lecomte.
Bonjour, Flavie. Quelle entrée ! J'espère qu'on va pas finir avec un Cloug.
Écoutez, ce sera grâce à vous. Ce serait quand même dommage. Merci d'être avec nous, Ligori Lecomte. Vous êtes chef du site cuisineaz.com et auteur culinaire. C'est un peu une spéciale do it yourself de Noël ce matin. Et alors justement, la bûche, on peut la faire soi-même. Ça semble compliqué. Est-ce que ça l'est réellement ?
Pas tant que ça. En fait, ça dépend. Hein. Forcément, si je vous dis, Flavie, vous allez me faire une bûche avec un glaçage miroir, un insert un peu travaillé,
mais
etc.
Rien miroir, fait peur.
Voilà. Mais après, voilà, il y en a vraiment pour tous les niveaux. On peut très bien faire une très bonne bûche roulée et ça va du coup être plus rapide à faire aussi. Mais donc voilà, donc vraiment en termes de niveau, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. À la fin, et puis du temps que vous allez avoir surtout, hein, si vous préparez la
recette que vous allez nous donner, là, on est bien sûr de tous pouvoir la faire. C'est accessible à tous.
Exactement.
D'accord.
C'est garanti.
Bon. Il existe différents types de bûches, vous venez de nous le dire. Les plus simples, apparemment, étant les roulées. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Et puis, il existe aussi des bûches glacées. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même ou pas?
Alors, on peut aussi les faire soi-même, bien sûr. Vous avez parlé des bûches roulées. Les bûches glacées, ça peut se faire maintenant très facilement à la maison. Vous avez aussi des bûches à base de bavaroise, des bûches à base de mousse. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de choses différentes que vous pouvez faire en fonction de vos envies, hein, tout simplement.
Et on les fait quand, ces bûches? Parce que là, on est à J-5. On les fait la veille ou le jour même?
Alors, surtout, moi, je ne le fais jamais le jour même. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, vous avez sûrement d'autres choses à faire entre préparer les petites pièces pour l'apéro. Vous avez ouais, sûrement le plat, etc. Donc au minimum, ça peut être la veille. Ça se conserve très très bien au frigo si vous le faites la veille. Et puis il y a même des bûches qui peuvent être faites encore plus tôt que ça et qui peuvent très bien se congeler, donc sans souci. Et puis voilà, du coup, vous la ressortez la veille, vous la mettez au frigo et puis comme ça, elle va revenir doucement en température. Ça sera parfait. Le but, c'est vraiment de gagner du temps le 24 ou le 25. Donc si vous pouvez vous décharger de la bûche ce jour-là, c'est parfait.
Exactement, c'est super à savoir. Le choix du biscuit, il est déterminant parce que parfois, personne ne nous écoute, donc personne ne le saura. Mais un jour, je suis allée fêter Noël et la bûche, elle n'était pas terrible parce que le biscuit, il était tout imbibé. Vous voyez, c'était un peu flotte, quoi.
Ah ouais, je vois exactement quoi. On est d'accord, on a été manger chez les mêmes personnes et c'est pas toujours. en fait, forcément, vous avez, comme on disait, plusieurs bûches, vous avez aussi plusieurs biscuits. Donc, on parlait des biscuits qui étaient roulés, dans lesquels il y a un peu de levure. Vous pouvez avoir des biscuits d'aquoise qui sont un petit peu meringués aux amandes. Vous avez aussi de la génoise, forcément, donc qui va être un petit peu plus long parce que c'est monté sur un bain-marie. Et puis alors, y en a certains qui vont la réimbiber après avec un sirop, avec un alcool, etc. Donc forcément, ça peut avoir ce petit côté un petit peu floc-floc, comme vous dites.
Voilà, donc il faut faire attention, quoi.
Voilà, exactement.
On peut tout mettre dans une bûche ?
Oui, bien sûr. Mais alors en fait, même là, après, ce que je vais vous proposer comme recette, ça va vraiment être une recette de base et vous allez pouvoir faire 1000 recettes avec et personnaliser. Vraiment, chacun apportera sa sensibilité et sa petite touche. On peut rajouter forcément des petits zestes d'agrumes, que ce soit dans le biscuit ou dans le cœur de la bûche. On peut mettre de la poudre d'amande, de la poudre de noisette, du cacao. Donc, vraiment, on peut vraiment personnaliser. On peut même rajouter des fruits ou des légumes. Potiron et vanille, par exemple, ça marche très très bien pour faire un petit insert au milieu. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qu'on peut mettre dedans.
Bon, il faut un moule spécial. Parce que ça, faut que ça ait la forme d'une bûche, c'est pas non plus gagné cette histoire.
Oui, exactement. Alors, si vous voulez faire une bûche roulée, vous n'avez pas forcément besoin de moule spécial. Après, si vous voulez faire une bûche avec une mousse, avec une bavaroise, etc., comme on disait tout à l'heure, là, il faut un moule qu'on appelle en forme de gouttière.
Donc, ok, ou des moules à cake.
On peut le faire dans un moule à cake. Si vous voulez faire vraiment une belle bûche rectangulaire, ça peut marcher aussi.
Sinon, c'est une gouttière, d'accord, donc c'est vraiment spécial.
C'est un moule à gouttière, voilà, comme on appelle. Alors, petite astuce, si vraiment vous ne voulez pas investir, ce que je peux comprendre, un moule à bûche à utiliser une fois par an, vous prenez, petite astuce système D, c'est avec une bouteille en plastique que vous allez ouvrir en deux dans la longueur. Vous faites ça avec deux bouteilles que vous allez pouvoir emboîter l'une dans l'autre et puis vous aurez un petit moule en forme de gouttière dans lequel on mettra un petit peu de film alimentaire et puis ça sera un peu plus rock'n'roll, mais en tout cas vous avez
Qu'on met pas dans le four dans ces cas-là, on est bien
d'accord. Ah non, bien sûr, ça sera vraiment pour des préparations froides, on s'entend bien.
Voilà, on est bien d'accord. Vous parliez de rouler la bûche, ça me fait toujours rire comme expression. Comment je la roule sans la casser ?
Alors il y a un petit truc déjà, c'est que souvent les gens quand ils réalisent leur biscuit roulé, ils veulent le faire refroidir à tout prix, très rapidement, et du coup, hop, on va mettre ça au frigo ou au congélo. Ça, c'est une première erreur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le froid, ça va rétracter et dessécher un petit peu votre biscuit. Et du coup, après, pour le rouler, vous allez le casser vraiment sur tous les coins, et ça sera un petit peu plus compliqué. Donc, vous le laissez refroidir à l'extérieur, vraiment température ambiante, sur un coin de la cuisine, ça sera déjà beaucoup mieux. Et puis, l'autre petite astuce, c'est de placer un linge ou un torchon humide sur votre génoise ou votre biscuit, et puis ça va la ramollir légèrement, vous voyez, elle va dans une atmosphère un petit peu plus humide, et du coup, vous aurez plus de facilité pour la rouler.
Très bien, merci. Alors, dites-moi, maintenant, on y va, la recette.
Alors moi, forcément, Noël, bûche, je pense aussi forcément chocolat. Donc, je vais proposer une bûche bavaroise à base de chocolat. Et puis, alors comme je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir rajouter plein de choses pour la personnaliser, et que chacun de nos auditeurs ait sa petite bûche à lui, à la maison.
Très bien.
Donc pour le biscuit, je vous donne une recette très facile. En fait, vous allez monter deux blancs en neige avec 50 grammes de sucre. Et puis à ça, vous allez y ajouter deux jaunes, 50 grammes de farine. Et puis vous allez mélanger ça délicatement. Et puis pour la cuisson, ça va se passer au four. 12 minutes à 170 degrés environ, jusqu'à ce que le biscuit dore. Hein, donc on s'entend bien. Hein, forcément, vous avez étalé ce petit biscuit sur une plaque de papier sulfurisé tranquillement à la maison. Donc ça, c'est une base que je vous donne. Mais après, comme on l'a dit, on peut rajouter des zestes d'agrumes, du cacao, de la poudre de noisette. Donc voilà, là, vous pourrez vraiment déjà personnaliser une première étape de votre bûche, le biscuit. Alors pour la bavaroise, vous allez avoir besoin de 4 feuilles de gélatine, donc 8 grammes de gélatine, que vous allez mettre à tremper dans de l'eau froide. Ça, c'est très important parce que ça a besoin d'au moins 10 minutes dans l'eau froide pour se décontracter et puis donner vraiment tout son pouvoir gélifiant. À côté, vous allez faire chauffer dans une casserole 25 centilitres de lait. Voilà. Alors là aussi, vous pouvez rajouter de la vanille. Tout à l'heure, vous avez parlé de fève tonka. C'est un produit que j'adore aussi pour Noël. En tous les cas, on fait chauffer ces 25 centilitres de lait. Et puis alors, en parallèle, dans un saladier, on va battre 3 jaunes d'œufs avec 50 grammes de sucre. On va verser le lait chaud dessus et puis on va tout remettre dans la casserole. Sur feu doux surtout, et puis on va essayer d'atteindre 83 degrés. En fait, il suffit avec une petite spatule ou une cuillère de faire des va-et-vient dans la casserole Et dès que la texture devient nappante, c'est-à-dire quand vous passez votre doigt dessus et que ça laisse un beau trait sur la cuillère ou spatule, c'est que là, vous avez atteint les 83 degrés environ, donc où ça va commencer à coaguler avec vos jaunes d'œufs. Et donc là, c'est parfait. Là, vous arrêtez. Vous enlevez ça du feu, hein, sinon après vous allez obtenir une omelette, hein, c'est pas ce qu'on veut. Et puis alors ça, une fois que ça a coagulé, vous ajoutez la gélatine que vous avez pressée, vous mélangez, et puis ça vous le versez sur 100 g de chocolat et vous laissez refroidir tranquillement. Ça va vous laisser le temps de monter 25 cl de crème fraîche en crème fouettée. Et puis alors ces deux textures, vous allez les incorporer délicatement l'une à l'autre pour obtenir vraiment une belle bavaroise au chocolat. Et puis bah, il va vous rester forcément le montage. Donc là, moi, j'utilise donc soit le moule à bûche en forme de gouttière, soit, on l'a dit tout à l'heure, avec la petite astuce avec les deux bouteilles en plastique. Vous allez remplir à peu près la moitié du moule avec la bavaroise chocolat. Vous allez y mettre une petite bande de biscuits, vous voyez, qui se cache bien hein, au milieu de votre bavaroise. Là, c'est le moment, si vous voulez rajouter aussi d'autres choses, du caramel au beurre salé, des fruits, par exemple des poires qu'on a pu faire sauter, des fruits secs, enfin, il y a plein de choses que vous pouvez mettre dedans. Et puis, vous allez terminer en remplissant l'autre moitié avec le reste de la bavaroise. Et puis, vous finissez avec une belle bande de biscuits de la taille du moule. Puis, vous placez ça au réfrigérateur pendant au moins 2 à 3 heures. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait de le faire la veille, c'est quand même l'idéal.
Ouais,
une fois que vous l'avez retourné, vous avez le choix, soit vous lancez dans ce glaçage chocolat, mais ou des petites meringues, ou de la poudre de cacao, ou des petits décors que vous aurez à la maison. En tout cas, ça fonctionnera très bien.
Merci beaucoup pour cette recette, Ligori Lecomte. On la retrouvera sur les réseaux sociaux de Nous Voilà Bien, mais également, j'imagine, sur le site cuisineaz.com, puisque vous y êtes auteur culinaire. Je vous remercie, Ligori. Je vous souhaite donc un joyeux
Merci
Noël. On aura une pensée pour vous quand on dégustera notre bûche le 24 ou le 25 décembre. Je sais que vous êtes là pour ça. Mais
ah,
ceux-là,
mais oui, complètement.
Ce sont des bisous
les
spéciaux,
gros,
parce que ce sont les bisous de Noël. Exactement. Vous les sentez, ces bisous de Noël qui sentent le sapin, qui sentent les cadeaux. Merci beaucoup, Ligori Lecomte, d'avoir été avec
Merci
nous ce samedi
vie,
matin.
À bientôt.
Nous voilà bien, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez réécouter cette émission et les autres, rendez-vous sur RTL.fr et sur les plateformes de podcast dédiées. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour On est fait pour s'entendre, le magazine du partage et de la réflexion. La semaine prochaine, 9h15, pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.